Je vais essayer un petit peu de vous parler des premières expériences que j'ai menées dans le milieu des années 80 avec un outil que je m'étais fait faire à l'époque qui fonctionnait, que j'avais appelé Animal et qui fonctionnait soit grâce à des capteurs qui analysaient le climat, soit grâce à des capteurs qui permettaient de capter le mouvement, la présence d'un public qui était aussi visiteur, en général dans des lieux... À l'époque, je montrais ces travaux dans des lieux, soit dans des festivals d'art électronique, dont un des premiers festivals auxquels j'ai participé était le festival d'art électronique de Rennes, qui a entre-temps disparu et plus ou moins réapparu. C'est là que je ne serai pas synchro. Ça fait bizarre, hein ? Mais vous voyez, le son et l'image sont des éléments comme ça qui peuvent souvent tromper. Donc j'ai souvent utilisé ça, bien sûr. Alors on va peut-être. Le problème, c'est qu'on peut pas manipuler le projecteur diapo d'ici. Alors ça, c'est dommage. Ouais, vas-y. Mais la diapo d'avant, la dernière diapo. Non, peut-être projette-la sur le. Oui ou là, oui, c'est pas grave. Ouais, projette-la sur le noir. Des fois sur. Non, là, carrément. Non, là, on voit rien, bon, d'accord. Bon, non, mais ça fait rien, mets-la là-haut, c'est pas grave, laisse-la là-haut, tu vas pas pouvoir tenir le truc. Ouais, bah, là, vous voyez quelque chose, à peu près ? Ouais, bon. Alors, c'était les premières installations que... Enfin, l'image d'une des installations sur laquelle j'ai énormément travaillé, qui était, en quelque sorte, un outil... qui ressemblait beaucoup à Max, dont on a parlé tout à l'heure. Et j'avais appelé ça « Animal en cage ». C'était déjà le détournement d'une installation que j'avais appelée « Animal » et que j'avais montrée à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon pendant une résidence où d'ailleurs on s'est connus avec... c'est là que je me rends compte que je ne parle pas beaucoup dans le micro. Avec Peter Sinclair. J'avais d'abord capté des sons d'animaux dans la nature, et ces sons d'animaux avaient été mis en mémoire sur, à l'époque, ce qu'on appelle un multi-échantillonneur, donc une mémoire numérique sur laquelle je plaçais des petits échantillons de sons donc de ces animaux enregistrés dans la nature, et ces sons étaient pilotés par différents capteurs, donc ça c'était en 1986 exactement. Ces capteurs analysaient la température, enfin le climat, donc température, humidité, intensité du soleil, et même il y avait un baromètre, etc. En fonction de ces paramètres, des sons d'oiseaux, d'insectes, de batraciens étaient diffusés. En fonction aussi de la présence du public, il pouvait y avoir des interférences, des arrêts par exemple. Et évidemment, depuis, finalement, aujourd'hui je m'en rends mieux compte, depuis des années, ce qui m'intéresse véritablement, c'est peut-être raconter en quelque sorte ce que j'observe dans la nature. Et à ma manière, replacer le public, le visiteur, l'auditeur, dans des situations où il, en quelque sorte, à la fois revit ce que peut-être moi j'ai vécu, et aussi ce que lui a vécu, puisque les sons ont cette capacité incroyable de nous faire remémorer notre propre histoire, de déclencher notre propre imaginaire. Et ainsi, en quelque sorte, de devenir peut-être un conteur qui ne passe pas par les mots. Donc ça a été donc entre 80 et 90, même un peu plus tard, j'ai donc énormément utilisé ces outils informatiques. Au début, j'ai démarré avec des PC, parce que la micro-informatique, début des années 80, rentrait dans les familles. Voilà, c'était vraiment, en France en tous les cas, le début. C'est un peu moins vrai aux États-Unis, mais... Et puis cet amour de la nature m'a aussi entraîné dans des pratiques très différentes. Au fur et à mesure que j'utilisais ces outils que je trouvais finalement très compliqués, très prenants, et quand on a envie en même temps de se côtoyer réellement au monde naturel, bien à un moment donné, j'ai tout simplement décidé d'énormément simplifier le travail que je faisais, les moyens de diffuser. Donc, de systèmes de fonctionnant sur des ordinateurs, on va dire, centraux, comme ça. Hein. On avait un ordinateur central qui gérait des informations extérieures et qui ensuite les rediffusait avec des sons. Je me suis mis à travailler sur ce que j'ai appelé des modules acoustiques autonomes, donc des espèces de petits robots acoustiques, encore une fois des outils. On a vu un tout petit peu là des images de capteurs solaires. Donc ces robots étant toujours équipés de capteurs solaires permettant soit de déclencher des sons à la tombée du jour, comme une expérience que j'ai appelée entre chien et loup et qui avait été montrée au Cresté en 1995, ou des installations qui donc permettent, enfin des outils qui me permettent de ne pas avoir de câble à la patte, en quelque sorte. Donc peut-être finalement de... Ça c'est chez moi. C'est mon potager. Voilà, c'est difficile d'avoir le temps de... parce que c'est un... Je vais labourer avec le tracteur. Donc j'ai développé des outils totalement différents qui sont beaucoup plus proches finalement du comportement animal pour le coup, puisque j'en ai emmené un exemple, des objets, des outils que je peux accrocher dans les arbres, que je peux placer dans des éléments, des éléments naturels, la montagne, la forêt, donc d'échapper d'abord totalement pour le coup et volontairement au contexte habituel des expositions, que ce soit le musée, que ce soit les galeries, que ce soit finalement aussi les centres d'art, bien que certains centres d'art nous offrent des possibilités exceptionnelles comme celui dont vous avez vu déjà des images, mais donc ces outils me libèrent en quelque sorte complètement de cette emprise technologique qui pour moi est parfois vraiment un gros souci. Et on peut, au hasard d'un chemin, être tout d'un coup capté par... En l'occurrence, là, vous voyez, je souffle dans un tuyau qui ressemble plus à un tuyau d'orgue, capté par des sons qui flottent dans l'espace d'un lieu auquel on ne s'attend pas obligatoirement à entendre ça, qui donc peut être un chemin de randonnée en pleine montagne. Et j'arrive à produire ce type de sons qui sont d'ailleurs là analogiques, puisque c'est une vraie... c'est en quelque sorte c'est une flûte harmonique qui est équipée d'une turbine qui, grâce à l'énergie solaire, va souffler dans un véritable sifflet qui est donc le sifflet de cette flûte. les sons émis se mêlent toujours dans ces cas-là à la réalité du milieu. Pour moi, ça c'est très très important. C'était déjà le cas dans mon expérience dont je vous ai parlé à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon en 86-87. Le fait que des sons diffusés se mêlent à une réalité que vous vivez vraiment, donc je dirais à une réelle interactivité, me permet en quelque sorte de me glisser et de me placer le visiteur, le promeneur, entre deux réalités. Vous avez des sons réels, on ne va pas dire qu'ils sont virtuels, mais qui vont vous faire penser à des entités, en tous les cas à la présence d'entités, par exemple, je ne sais pas, une grenouille, un son de grenouille, et un milieu dans lequel vous allez évoluer. Une des premières expériences que j'avais menées, c'était dans le Marais Poitevin. Il y avait à la tombée du jour, il y avait des guides qui nous emmenaient sur des barques faire le tour du Nil. Et sur cette île, j'avais disposé des machines solaires donc qui se chargeaient la journée et qui émettaient des sons à la tombée du jour. Et ces sons avaient été enregistrés en Guyane. Donc c'est aussi, bien sûr, des prétextes au voyage. Ces visiteurs, promeneurs, se retrouvaient entre cette réalité de sons guyanais et des sons du Marais Poitevin. D'ailleurs, les grenouilles guyanaises avaient excité les grenouilles du Marais Poitevin et du coup, elles répondaient à ces entités qui pourtant n'existaient pas, mais qui par le son réellement créaient des effets d'excitation sur leur comportement et donc ces grenouilles répondaient. Bon, ça, j'avais d'ailleurs des témoignages sonores de ces enregistrements. Ce que vous voyez là, c'est une espèce de déclinaison d'outils de ce type, toujours avec cette volonté d'être complètement autonome. Ce sont ce que j'ai appelé des graines de lumière. Et ce sont des tout petits engins solaires qui, de la même manière, se chargent toute la journée et émettent des clignotements que l'on voit jusqu'à 2 km et qui ont été disposés entièrement sur l'île de Vassivière, le centre d'art étant au milieu de cette île. Voilà, il y en a 350 graines de lumière qui ont été accrochées comme ça sur l'ensemble de l'île. C'était une opération assez énorme parce que on était deux équipes à accrocher. Alors c'est drôle parce que le fait de vouloir être autonome, vous allez voir la technique d'accroche, m'a poussé évidemment à développer une technique très très particulière pour pouvoir placer ces machines hors de portée d'une part du public. Ça a plusieurs intérêts évidemment, ne pas se faire voler le matériel, mais aussi pouvoir produire soit des sons, soit de la lumière, là en l'occurrence, de façon relativement magique, puisque on n'est pas obligé de penser que ces instruments sont parfois à 17 mètres de haut dans les arbres. D'ailleurs, actuellement, j'ai plusieurs installations de flûtes solaires dans différents lieux. Un parc de sculptures qui est à Chamarande, ils ont acquis une installation sonore composée de ces flûtes solaires. Un FRAC aussi, le FRAC Alsace, donc un fonds régional d'art contemporain, pour les étudiants qui peut-être de première année ou deuxième année qui connaissent peut-être pas ce que c'est exactement qu'un FRAC. Donc ce sont le but du FRAC, c'est d'acheter des œuvres d'artistes et de les regrouper dans une espèce de collection publique. Voilà, donc ce FRAC a décidé d'acheter ces flûtes qui vont d'ailleurs être déplacées. Là, en ce moment, elles sont en Alsace. Elles vont être déplacées sur un parc qui est le parc de l'abbaye de Maubuisson, c'est un lieu sur lequel je travaille actuellement, qui est un très très beau centre d'art dont on entend très peu parler, parce qu'en France, on a cette spécialité, c'est d'avoir beaucoup de centres d'art, mais qui malheureusement ne communiquent pas toujours très bien. Je ne sais pas, ça doit être assez général, semble-t-il. Malgré tout, bon, alors, c'est un très très beau lieu, il est entre Pontoise et Paris. Là, c'est une autre pièce que j'ai faite au Centre d'art de Vassivière. Donc, comme je vous ai dit, c'était 3 ans de travail sur ce site. Et c'est intéressant de peut-être de parler un petit peu de comment les choses se sont... Comment j'ai pu faire autant de choses sur un même lieu. C'est que le directeur de ce centre d'art m'a donné carte libre, comme ça... pour écrire un projet pendant 1 an. Donc en l'occurrence, j'ai eu une espèce de subvention pour réfléchir pendant 1 an à différents projets sur cette île. Et donc, il y a eu ce dont je vous ai déjà parlé, les graines de lumière. J'ai aussi fait une installation de flûte solaire. J'ai montré cette pièce d'eau qui fait partie de tout un travail que je mène depuis aussi assez longtemps sur des installations silencieuses. Donc là, un miroir d'eau que j'ai montré aussi l'année dernière, le même principe à Vintabrin dans le moulin de la Recense, où bien entendu à la fois le lieu d'exposition finalement est intégré à la pièce installée, où il y a cette espèce de boucle étrange qui se produit entre la manière de travailler, d'introduire quelque chose dans un lieu, et cette réponse. Bien sûr, acoustiquement, un plan d'eau de ce type n'est pas neutre. Vous avez tous en mémoire ce qui peut se passer dans les piscines, et l'acoustique de la salle est totalement perturbée, totalement modifiée, par la pièce d'eau qui est créée dans le lieu. C'est pas toujours évident que des centres d'art ou des musées acceptent que leur lieu soit noyé de cette façon-là. Surtout quand, en plus, quand on commande une pièce à un artiste qui peut avoir la réputation de travailler avec le son et qu'on annonce qu'on va faire une installation silencieuse, c'est pas toujours non plus évident. L'autre expérience, et c'est un petit peu, pour moi, c'était assez logique, c'est-à-dire que finalement, en travaillant dans les années 80, ce qu'on appelait les nouvelles technologies, j'ai finalement beaucoup expérimenté de choses. Je crois que l'informatique m'a permis de mettre aussi le doigt sur le fait que c'était finalement l'éthologie, c'est-à-dire l'étude des comportements du vivant et particulièrement des animaux dans des milieux naturels qui m'intéressait, et évidemment aussi les plantes. Ce qui m'a mené dans des expériences, où j'ai commencé d'ailleurs en galerie à Paris, à montrer des pièces silencieuses qui envahissaient les lieux de bambou. Bon, c'est marrant qu'on soit tombé pile sur la pièce de Walter de Maria qui avait envahi de terre une salle d'exposition. Donc j'ai appelé ces installations végétales composées de bambou, j'avais appelé ça des zones de silence, et l'idée était d'abord d'envahir un lieu d'exposition et ensuite de récupérer ces bambous et de les planter sur le site que vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo, réunissant un peu comme un collectionneur une bambousée. Mais cette bambousée, bien sûr, est aussi, pour moi, un prétexte à vivre avec un végétal, m'apercevoir que cette soi-disant zone de silence est en fait un prétexte à créer à attirer des oiseaux, à attirer des insectes, à conserver de l'humidité. D'ailleurs, bon, là, on voit le jardin de Claude Monet. Et peut-être à la manière d'un Claude Monet ou d'autres artistes qui se sont servis de la nature et d'une nature dominée ou contrôlée pour leurs travaux, que ce soit pour peindre ou comme James Turrell pour faire des expériences de beaucoup plus longue haleine avec son volcan. Ça y est, je ne sais plus ce que je disais. Non, mais ça, c'est de regarder les images en même temps que de parler. C'est terrifiant. Oui, le lien avec la nature. Bon. Et j'ai vraiment voulu donc expérimenter des interventions sur la nature qui allaient engendrer des sons, qui donc allaient devenir des interventions où le paysage sonore est en quelque sorte modelé par l'artiste ou par une équipe, parce que, comme vous le voyez, là, c'est la dernière expérience dont je voulais vous parler par rapport au Centre national d'art, international d'art et du paysage. C'est toute une organisation dont vous êtes en train de voir des témoignages, où on a planté avec des familles qui venaient sur le site, des étudiants qui recevaient les familles en question qui... Donc on a planté 2500 arbres et arbustes, tous choisis pour attirer des insectes et des oiseaux. Bien sûr, pas tout de suite, là on est déjà à 3 ans de plantation, mais quelque chose qui est à longue échelle dans le temps. Donc on n'est plus sur un mois d'exposition, deux mois d'exposition, un an d'exposition. Là on est... on est plutôt dans une idée qui fait son chemin sur 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, pourquoi pas. Et donc, bien sûr, je reviens sur les lieux. Maintenant que ces 2500 arbres et arbustes ont été plantés, et bien sûr, l'idée et le projet était de modifier le paysage sonore d'une partie de l'île grâce à une plantation. Pour moi, la réelle interactivité, elle est et elle ne peut être que là. Elle est par exemple là, si quelqu'un d'entre vous est en train de dormir pendant que je parle, et que je me mets à parler un peu plus fort, ça va peut-être le réveiller ou pas. Mais en tous les cas, il est très rarement... souvent on parle d'interactivité dans les installations sonores ou vidéo ou autres que l'on montre, mais je crois que c'est tout simplement pour se simplifier. Beaucoup d'entre nous sommes tout à fait conscients que ce n'est pas de la réelle interactivité, ou en tous les cas très très rarement. Mais enfin, on pourra en reparler. Le fait est que lorsque les arbres vont se battre sur ce terrain, puisqu'il y a des arbres qui vont supplanter les autres, qui vont mourir parce que je me suis trompé, j'ai choisi des espèces qui ne vont pas résister à l'hiver. Enfin, j'espère que je n'ai pas fait cette erreur-là, mais voilà, il va y avoir une espèce de combat naturel, puisque là, on laisse faire la nature, en l'occurrence. On va contrôler quand même quelques petites choses, mais par exemple la pression démographique des conifères va être contrôlée sur la parcelle, de manière à ce que les conifères n'envahissent pas tout à nouveau. il y a aussi le fait que des projets comme ça naissent encore dans une interactivité assez claire. C'est qu'il y a eu, la tempête de 99 dont vous avez tous entendu parler, dont vous avez tous vu des images, et grâce à, en quelque sorte, grâce à cette tempête, il y avait toute une zone libre sur l'île de Vassivière pour que je puisse mener cette expérience. Je vais peut-être en revenir. Non, attendez. J'ai écrit au début de la pour cette présentation, j'ai écrit chasseur-cueilleur. Ce que j'entends par chasseur-cueilleur, c'est par exemple tout le travail que j'ai pu mener cette année, en début d'année, avec dans le parc de Chambord, pour une exposition qui a eu lieu là tout l'été dans le château de Chambord. Qui s'appelait Chasser le naturel. J'ai passé, réparti sur 5 ou 6 mois, avec d'ailleurs un ou deux étudiants de l'école, que je remercie encore d'avoir eu le courage de me suivre, parce que c'est parfois dangereux. On a passé donc des journées, des nuits, des matinées parfois même un peu froides, à enregistrer des sons d'animaux, dans la forêt de Chambord. Et à partir de ces sons, j'ai créé une bande son de 6 heures qui a été diffusée en boucle dans le château. Alors vous allez me dire, 6 heures, pourquoi 6 heures? D'abord parce que j'ai toujours été très attaché à faire très attention avec le son. On a toujours du mal à arrêter le son, en fait. Une fois que c'est parti, surtout quand les machines d'ailleurs sont accrochées à 17 mètres de haut dans un arbre, à part tirer dessus, il n'y a plus de moyens pour arrêter les fluides solaires. Là, en l'occurrence, à Chambord, c'était justement très facile éventuellement de couper le niveau de la diffusion sonore. Mais il y a énormément de gens qui travaillent dans ce château. Des guides, des animateurs, des gens qui travaillent avec les enfants, etc., etc. Et si j'ai fait une boucle aussi si longue, c'est que je ne voulais pas qu'au bout de quelques jours d'exposition, on me coupe le sifflet, en quelque sorte. J'ai toujours été très, très attentif à ça. Et par exemple, avec les flûtes solaires, quand on me fait une commande dans un parc, c'est la première chose que j'observe. Si c'est dans un parc en ville, évidemment, j'essaye d'éviter que ça soit à côté d'habitations. Là, vous avez la situation, d'ailleurs, de l'île qui est ici. On avait vidé ce lac, qui est un lac complètement artificiel. Ça y est. Ça recommence. Non, pas là, ouais. Donc le ces sons en tous les cas je fais continuellement attention à ça, et c'est vrai que puisque j'ai cette liberté, puisque j'ai pas de fil à la patte, comme je disais tout à l'heure, avec ces installations sonores comme avec les flûtes, je peux me permettre justement de m'éloigner des habitations, de m'éloigner de certains lieux de vie, et de ne pas imposer le travail comme une espèce d'ovni qui pourrait parfois être insupportable, ou au bout d'un certain temps être insupportable. On parlait de durée tout à l'heure. C'est vrai que souvent dans les écoles d'art et peut-être en général, on a et peut-être du fait aussi de cette technologie qui nous pousse à continuellement faire de nouveaux outils, on a presque tendance à ne pas vouloir répéter une expérience et de toujours se renouveler, ce qui est d'ailleurs formidable aussi. Moi, je suis ravi, mais alors vraiment ravi, qu'avec à partir des flûtes solaires, donc dont j'ai montré les prototypes la première fois en 97, dans un petit festival qui s'appelle Au-delà, avec l'association In Situ qui est à Enghien-les-Bains. Je suis ravi justement d'avoir montré, remontré et encore remontré, et je continuerai à les montrer, ces flûtes solaires. Pourquoi ? Parce que je me suis tout simplement rendu compte d'abord que ces outils, je les ai énormément perfectionnés. Là maintenant, vous la voyez comme ça, ça paraît très très simple. Au début, ce n'est pas si simple que ça. Au début, j'avais des capteurs solaires de cette taille-là, avec des turbines qui étaient en fait des ventilateurs pour aérer des ordinateurs, et ça ne marchait pas du tout. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé les bonnes turbines, j'ai trouvé le bon rapport entre l'énergie produite grâce aux capteurs solaires et les turbines qui soufflaient dans les sifflets. Et donc, j'ai pu rendre très compact cet outil. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai travaillé sur comment cet outil devait être résister au temps, et réellement résister au temps, pas faire semblant, parce que j'avais besoin qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, d'un outil étanche, peut-être à la manière parfois du matériel des scientifiques, pas peut-être, c'est évident, ou des militaires. Et le fait de répéter, bien sûr, m'a en quelque sorte financé aussi cette recherche. Hein. J'ai pu donc petit à petit créer des outils qui tiennent réellement au temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans une forêt. Le plus embêtant, ce sont les guêpes, les fourmis volantes et le troisième, et les araignées. Ces trois-là sont les plus... J'ai eu une expérience à Rio de Janeiro, dans la forêt de Tijuca, où pratiquement toutes les flûtes, au bout d'un an et demi, étaient envahies par ces trois entités. Certaines même avaient amené de la terre, je parle des guêpes et des fourmis, elles avaient amené de la terre et créé des structures dans les flûtes et avaient totalement bouché, bien sûr, le système. Bon, enfin, ça, c'est de bonne guerre. Involontairement, j'ai créé, semble-t-il, des niches écologiques. Et voilà. Le fait de travailler dans la durée et de répéter ce type d'installation m'a permis d'aborder autre chose. Quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus important, et qui est tout simplement, parfois, dans certaines régions, parce qu'on travaille longtemps sur un lieu, parce qu'on l'envahit sur une longue durée, eh bien, on peut toucher aux mythes, on peut toucher réellement aux histoires des lieux. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années en Italie, à côté de Turin, dans le Piémont, et j'ai rencontré un personnage... assez fantastique, qui s'appelle la Masca, et qui est une espèce de sorcière capable de prendre le visage du dieu de la forêt et en quelque sorte de nous attirer, même parfois dans des zones assez dangereuses qui sont des sables mouvants. Et cette sorcière m'a énormément appris. Bien sûr, je l'ai rencontré à travers des histoires, à travers des spécialistes, à travers des promeneurs que j'ai rencontrés, à travers aussi mes commanditaires qui m'ont très vite parlé de cette entité piémontaise magique. Et lorsqu'on travaille avec les sons et qu'on investit un lieu d'une certaine manière... Voilà, on peut à un moment donné toucher à ces histoires qui font partie de traditions, qui font partie des contes. Et ce qui devient passionnant, c'est que les contes peuvent se réinventer, s'enrichir d'autres histoires, ou bien tout simplement... à partir d'une expérience de cette sorte, des histoires nous reviennent à l'esprit. Et finalement, cela permet, bien sûr, dans certains cas, hein, ce n'est pas vrai partout. Ça a été vrai aussi au Pérou, ça a été vrai au Brésil et dans d'autres sites. En tous les cas, j'ai découvert des histoires, j'ai rencontré des gens et les choses se font comme ça très très lentement. Mais ce sont toujours pour moi en tous les cas, toujours de belles histoires, de très belles histoires et de vraies histoires qui participent aussi de comment je me nourris et comment je rebondis aussi sur d'autres expositions. Bien sûr, lorsque je montre les flûtes dans un milieu urbain comme à Riga en Lettonie, là c'était une toute autre histoire, mais je cherchais des arbres magiques parce que j'avais entendu dire que dans les traditions lettones il y avait des chênes qui étaient des arbres magiques, et le chêne est un arbre magique qu'on va trouver aussi dans d'autres cultures, bien sûr en France, en Bretagne et ailleurs. Et même en ville on a parfois comme ça des rencontres qui peuvent être liées soit aux anciennes traditions et aux mythes. Voilà, le son, est, pour en revenir au son, le son a vraiment cette particularité de déclencher en nous, parce que justement les images sont absentes, de déclencher en nous des souvenirs, et parfois des souvenirs qui sont beaucoup plus vieux que l'on croit, qui nous rappellent peut-être notre manière de fonctionner lorsque notre cerveau reptilien était beaucoup plus développé. Peut-être. Je vais vous faire écouter quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le cerveau reptilien. Et qui est un enregistrement que j'ai fait pendant cette semaine initiale qu'on a menée avec les premières années à Porquerolles. Et on va peut-être couper la vidéo. Comment je coupe ça? Parce que c'est bon, c'est vu. Alors, vous avez vu dans la vidéo, à un moment donné, une espèce de tête en plastique qui, pour certains, peut paraître un peu bizarre. C'est un microphone stéréophonique. Donc, les capsules du micro sont placées à l'intérieur à la place des tympans, quelque sorte. Et c'est un outil qui permet de simuler, en quelque sorte, notre physiologie. Lorsqu'on réécoute, particulièrement au casque évidemment, on a une sensation de spatialisation qui peut être très très forte. Thank you. bon, pour certains d'entre vous, pour pratiquement tous ceux qui étaient présents à Porquerolles, vous savez exactement ce que c'est. Je pense qu'on reconnaît. On va peut-être... Comment ? Non. Pourquoi pas ? En tous les cas, c'est une bande son qui... dont... Il y a assez de composantes, assez de très nombreux éléments qui font que, et des intensités qui montent très très fort, qui font que on a une espèce de masse sonore et d'éléments. Tout à l'heure, tu parlais des bruits. D'ailleurs, c'est drôle parce que tu sais, un peu comme si on pouvait parler des mauvais bruits et puis des bons bruits. Et puis, ça m'a fait penser aux mauvaises herbes. Est-ce que les mauvaises herbes existent ? Est-ce que les mauvais bruits peuvent exister ? Bon, je pense que la plupart d'entre vous, quand même, on n'est pas loin de la mer ici. C'est le port de plaisance de Porquerolles. Voilà. Un jour de vent. Bon, voilà. Je suis passé un peu dans tous les sens. Il y avait les images derrière. Bon, voilà. Vous avez peut-être des questions. Et puis, ça va, en point de vue temps, c'est... Ouais. Ouais. Oui, ça m'est. Oui, ben en fait, ça m'est. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai cette liberté de travailler sur des longues durées. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai souvent des commandes de justement de courte durée. Hein, puisqu'il y a des festivals ou des... Oui. Et des expos qui vont durer... Ben là, par exemple, en ce moment, à Rennes, dans le parc du Tabor, on m'a invité à travailler dans ce parc. Donc, j'ai fait une installation avec les flûtes. Et de façon...